Chapitre 1. Été 2015. Un portrait de Mère Teresa est accroché au mur du salon, à l'endroit où on pourrait installer une télévision si on avait les moyens de s'offrir ce genre d'appareil, ou même une maison équipée de murs qui puisse le supporter. Ceux d'une caravane ne sont pas faits de la même matière. Ils s'émiettent sous les ongles, comme de la craie, pour peu qu'on les gratte. Un jour, j'ai demandé à ma mère, Janine, pourquoi elle gardait un tableau de Mère Teresa au mur du salon.
« Cette salope était un imposteur », m'a-t-elle répondu.
Ce sont ses mots, pas les miens. Je crois que quand on fait partie de la lie de la société, on a tendance à souligner le pire chez les autres, par pur réflexe de survie. On se concentre sur la noirceur des gens dans l'espoir qu'elle masque la nôtre. C'est ainsi que ma mère a passé toute sa vie, à constamment chercher le pire chez les gens, même chez sa propre fille. Même chez Mère Teresa. Janine est allongée sur le canapé, dans la position où elle se tenait lorsque je suis partie travailler chez McDonald's, il y a 8 heures. Elle contemple le portrait de Mère Teresa. Enfin, pas vraiment. On dirait que ses pupilles ont cessé de fonctionner, d'enregistrer. C'est une toxicomane. Je m'en suis rendu compte vers l'âge de 9 ans. Mais à l'époque, elle n'était accro qu'aux hommes, à l'alcool et aux jeux. Avec les années, c'est devenu de plus en plus évident et plus dangereux. Il y a environ 5 ans, alors que je venais d'en avoir 14, je l'ai surprise pour la première fois en train de se shooter à la mette. Quand on commence à en consommer régulièrement, on voit sa durée de vie se réduire assez vite. Un jour, à la bibliothèque de l'école, j'ai cherché sur Google. Combien de temps peut-on vivre avec une addiction à la méthamphétamine? Entre 6 et 7 ans, a répondu Internet. Plus d'une fois, je l'ai trouvée inconsciente. Mais là, c'est autre chose. Ça semble définitif. Janine? Une sorte de calme imprègne ma voix, plutôt déplacée en ce moment. Elle devrait être tremblante, inexistante. Je me sens un peu gênée par ce manque de réaction. Je jette mon sac à mes pieds, sans quitter son visage des yeux à l'autre bout du salon. Dehors, il pleut, et je n'ai pas encore fermé la porte d'entrée. Si bien que je me fais toujours copieusement doucher. Mais je ne songe pas un instant à me mettre à l'abri alors que je regarde ma mère, en train de regarder Mère Teresa. Janine a un bras posé sur le ventre, et l'autre qui pend au bord du canapé, les doigts traînant sur le tapis râpé. Elle est un peu enflée, mais ça lui donne l'air plus jeune. Pas que son âge, elle n'a que 39 ans. Mais plus jeune que sa toxicomanie ne pourrait le laisser croire. Ses joues sont un peu moins creuses ainsi. Et les rides qui se sont formées autour de ses lèvres ces dernières années donnent l'impression d'avoir été adoucies par le botox. Janine? Silence. Sa bouche béante laisse apparaître des restes jaunes de dents écaillées et pourries. On dirait que la vie l'a quittée au beau milieu d'une phrase. Voilà un moment déjà que je m'attendais à cette scène. Parfois, quand on déteste quelqu'un, on ne peut s'empêcher d'imaginer au beau milieu de la nuit comment tournerait votre existence si cette personne venait à mourir. Je l'imaginais différente, beaucoup plus dramatique. J'examine encore un peu ma mère, pour être sûre qu'elle n'est pas dans une sorte de catalepsie. Je m'approche un peu d'elle, et m'arrête en découvrant qu'une aiguille pend de son bras, juste à l'intérieur du coude. Dès que je l'aperçois, la réalité me revient en pleine figure et j'ai un haut-le-cœur. Je fais demi-tour et détale de la maison. J'ai l'impression que je vais vomir. Alors je m'adosse à la rampe pourrie en essayant de ne pas trop m'appuyer pour qu'elle ne se casse pas sous mon poids. Je suis soulagée dès que je vomis, car je commençais à me demander pourquoi je réagissais si peu à ce moment qui risque de changer toute ma vie. Je ne vais sans doute pas piquer une crise d'hystérie comme pourrait le faire une fille devant sa mère dans de telles circonstances, mais au moins, je ressens quelque chose. Je m'essuie la bouche avec la manche de ma blouse McDonald's, m'assied sur les marches malgré la pluie qui s'acharne sur moi par cette nuit sans lune. Mes cheveux et mes vêtements ruissellent, ainsi que mon visage. Mais pas de larmes. Juste de gouttes d'eau. Yeux mouillés, cœur sec. Les paupières fermées, je presse mes mains sur mon visage en essayant de comprendre si cette absence de réaction provient de mon éducation ou si je suis née ainsi. Je voudrais bien savoir quel genre d'éducation est pire pour un humain. Le genre où l'on vous protège et on vous dorlote au point d'en oublier la cruauté du monde jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour acquérir les capacités d'adaptation nécessaires, ou bien le genre de foyer dans lequel j'ai grandi. La version la plus atroce d'une famille, où l'on n'apprend qu'une chose, survivre. Avant d'avoir l'âge de travailler, j'ai passé de nombreuses nuits sans fermer l'œil, car mon estomac criait famine. Janine m'a dit un jour que ces grognements provenaient du chat affamé qui vivait en moi et râlait parce que je ne l'alimentais pas assez. Après quoi, chaque fois que j'avais faim, j'imaginais le félin dans mon ventre à la recherche de nourriture. Et j'avais peur qu'il ne finisse par manger mes entrailles, si bien qu'il m'arrivait d'avaler des choses immangeables juste pour satisfaire le chat affamé. Une fois, elle m'a laissée seule si longtemps que j'ai dû me gaver de vieilles peaux de bananes et de coquilles d'œufs récupérées dans la poubelle. J'ai même voulu avaler quelques morceaux de rembourrage du canapé, mais c'était trop dur à avaler. J'ai ainsi passé mon enfance, terrifiée à l'idée d'être dévorée de l'intérieur par cet animal vorace. Je ne sais pas si elle est restée absente plus d'une journée d'affilée, mais quand on est enfant, le temps s'étire terriblement si on se retrouve seul. Je me rappelle une fois où elle est entrée dans la maison en titubant pour aller s'affaler sur le canapé et y rester pendant des heures. J'ai fini par m'endormir recroquevillée à ses pieds, terrifiée à l'idée de la laisser seule. Le lendemain de cette cuite, je me suis réveillée pour la trouver en train de préparer le petit déjeuner, pas forcément ce qu'on mange habituellement à ce repas. Comme à son habitude. Ce pouvait être des petits pois, des œufs, parfois une boîte de soupe de nouilles au poulet. Vers l'âge de 6 ans, j'ai commencé à observer comment ma mère allumait la cuisinière le matin, car je savais que je devrais m'en occuper la prochaine fois qu'elle disparaîtrait. Je voudrais bien savoir combien d'enfants de 6 ans doivent apprendre seuls à manipuler une cuisinière de peur de finir dévorés par leur chat intérieur. Pur hasard, sans doute. La plupart des enfants ont des parents qu'ils regretteront après leur décès, tandis que les autres, comme moi, les préfèrent morts. La meilleure chose que ma mère ait pu faire pour moi était de mourir. Buzz m'a dit de m'asseoir dans sa voiture de patrouille pour m'abriter de la pluie pendant qu'ils emportaient son corps. Je les ai regardés la sortir sur un brancard, recouverte d'un drap, puis la mettre à l'arrière d'un fourgon des pompes funèbres. Ils n'ont même pas fait mine de l'emmener dans une ambulance. Pas la peine. Dans cette ville, quand on décède à moins de 50 ans, c'est en général à cause d'une addiction. Peu importe laquelle, on finit par en mourir. J'appuie ma joue sur la vitre et essaie de contempler le ciel. Pas d'étoiles ce soir. Je ne vois même pas la lune. De temps en temps, un éclair zèbre les amas de nuages noirs. Comme moi. Buzz ouvre la portière arrière et se penche à l'intérieur. La pluie n'est plus qu'une bruine, si bien qu'il a le visage humide, mais ça lui donne plutôt l'air de transpirer.
« Je peux te déposer quelque part ?»
s'inquiète-t-il. Je fais non de la tête.
« Tu veux appeler quelqu'un ? Je te prête mon téléphone. »
« Non merci, ça ira. Je peux rentrer chez moi maintenant ?» Je sais pas vraiment si je tiens à regagner la caravane où ma mère a poussé son dernier soupir. Mais je n'ai rien de mieux à faire pour le moment. Buzz s'écarte et ouvre un parapluie, bien que je sois déjà trempée, pour me protéger jusqu'à chez moi. Je ne le connais pas très bien. C'est son fils, Dakota, que je connais, dans de très nombreux sens du terme. Je ne préférerais pas. Je me demande si Buzz sait quel genre de fils il a élevé. Il passe pour un type correct. Il ne nous a jamais trop embêtés, ni ma mère, ni moi. Parfois, il arrête sa voiture durant les patrouilles dans le parc à caravane. Il veut toujours savoir si je vais bien. Et ça me donne l'impression qu'il s'attend à ce que je l'implore de me tirer de là. Mais non, les gens comme moi sont très doués pour faire croire qu'ils vont bien. Alors je me contente de sourire, de dire que tout est parfait. Et là, il sourit, comme soulagé que je ne lui ai pas donné une raison d'appeler les services sociaux. Une fois de retour dans le salon, je ne peux m'empêcher d'examiner le canapé. Il me semble différent maintenant, comme si quelqu'un était mort dessus.
« Ça ira pour la nuit ?» interroge Buzz.
Je me retourne pour le découvrir sur le seuil, toujours avec son parapluie. Il m'observe, l'air compatissant, mais l'esprit sans doute concentré sur toute la paperasse que cette situation implique. « Ça ira. »
« Tu pourras te rendre demain au funérarium pour préparer l'enterrement. » Quand tu voudras, à partir de 10 heures.